Vous avez été béni dans cette lecture, dans cette méditation de la parole, dans cette oraison, comme on l'appelle aussi. Et béni dans les partages. Alors, vous ne venez pas bagarrer dans les partages. Personne n'a voulu avoir raison sur l'autre. Voyez-vous, tout ce qu'on recherche, c'est que le Seigneur ait raison de nous. C'est ça qui compte. C'est que le Seigneur triomphe. C'est pas que moi j'ai raison, c'est pas intéressant. C'est que lui ait raison de moi. Et qu'il ait raison de nous tous. Pour nous conduire vraiment où il le voudrait, dans cette joie qui devrait nous caractériser, dans cette paix que rien ne doit troubler, et dans cet amour qui supporte tout, qui croit tout, qui espère tout, qui endure tout, et qui ne périt jamais, parce que le Dieu dont nous avons parlé ce matin, c'est un Dieu qui est amour. Dieu est amour. Et nous nous prosternons devant lui pour l'adorer. Dieu notre Père, oui, tu es amour. Et tu nous l'as montré par un fait. Tu as donné ton Fils, ton unique, ce que tu avais de plus cher pour que nous, nous puissions être heureux comme toi tu es heureux. Dans l'amour de Jésus. Oh, que cet après-midi, ce soit la personne de ton Fils qui occupe nos cœurs. Et que, voyant l'amour dont il nous a aimés, nous soyons conquis par lui. Et que rien ne nous coûte pour le suivre et l'aimer. Car c'est ça, être sauvé. C'est pas simplement avoir une assurance en vue de notre mort et d'un jugement éternel. Mais avoir la joie de vivre maintenant à la gloire du Père par le Saint-Esprit, notre force tout-puissante. Amen. Amen. Eh bien, mes amis, je suis heureux si vous avez pu consulter la parole pour répondre un peu à ces deux questions. Qu'est-ce que la chair? Et puis, à cette autre question, est-ce que la chair, d'après ce que vous avez lu, est capable de plaire à Dieu, de satisfaire Dieu, le Dieu trois fois saint, qui est amour, comme nous l'avons lu, mais est-ce que la chair est capable? Et alors, si elle est capable, alors tous nos efforts nous devraient tendre à ce que notre chair s'améliore, et que le Seigneur puisse vraiment se réjouir en voyant l'état de notre chair. N'est-ce pas? Vous avez compris que ce n'était pas ça, l'enseignement de la parole. Ça peut être notre sentiment, mais nos sentiments n'ont pas de valeur, là. Ce sont les déclarations de la parole. Alors, simplement, vous avez lu dans le livre de la Genèse, parce que nous croyons à l'inspiration de toute la parole, et en deux mots, pour vous dire pourquoi est-ce que nous y croyons, quelle est notre autorité pour croire ça, eh bien c'est que Jésus y croyait. Quand Jésus est venu sur la terre, qu'est-ce qui existait? L'Ancien Testament. C'était l'Ancien Testament qu'on appelait les Écritures, ou la loi, les psaumes et les prophètes. C'était ces livres de l'Ancien Testament. Et quand Jésus a parlé des Écritures, eh bien, c'était de l'Ancien Testament qu'il parlait. Le Nouveau Testament n'existait pas encore quand Jésus était là. Alors, il a revêtu de son autorité tout l'Ancien Testament. Et spécialement, ces récits qui sont mis en doute bien souvent par les théologiens dits modernistes, et qui ne sont pas très modernes, parce que en tout temps, on a essayé de discréditer l'Écriture sainte. Mais qui est derrière cette offensive contre les Écritures, contre la vérité de l'Écriture? C'est toujours le même, qui s'appelle Satan, l'adversaire de Dieu, qui voudrait enlever l'autorité à l'Écriture. Il a commencé ainsi avec Ève. Comment Dieu aurait-il dit? Est-ce que c'est vrai ce qu'il vous a dit, que vous ne deviez pas manger du fruit de l'arbre de vie? Et il a menti en disant, vous ne mourrez point. N'est-ce pas? Donc, le diable est un menteur dès le commencement. Alors, si le doute vient dans votre cœur, quel que soit le doute, hein, dites, c'est de Satan. Le doute ne vient pas de Dieu. Il vient de Satan. Et que celui qui doute le comprenne bien, il ne recevra rien de la part du Seigneur. Parce que douter, c'est déshonorer Dieu. Dieu a fait des promesses et nous devons les croire et ne pas mettre en doute la parole de Dieu. Parce que Ève a laissé ce doute s'insinuer dans son cœur, alors qu'elle aurait dû refuser la discussion avec Satan. Résister au diable et il servira loin de vous. Mais si vous commencez à sonder, à analyser, est-ce que c'est ci, est-ce que c'est cela, et puis à vous regarder vous-même, à consulter vos sentiments, bien évidemment, mes sentiments, quand je regarde l'arbre, il est beau à voir, et puis il a l'air bon à manger, voilà mes sentiments, et je passe à l'acte. De la pensée, j'arrive à l'action, et je tombe. C'est cela, la chute. Et alors, comme j'ai essayé de vous le montrer, tant que l'homme était en relation avec Dieu, son créateur, son être tout entier était dans la lumière. Et voyez-vous, c'est très intéressant parce que au fur et à mesure que nous allons avancer, il y a des questions qui vont se poser à nous. J'ai osé dire que l'homme était extraordinairement intelligent. Quand il est sorti des mains de son créateur, il avait un potentiel formidable. Potentiel dans son âme, son intelligence, sa volonté, ses sentiments, tout cela, oui, qui forme l'âme, ce potentiel merveilleux. Et puis, alors, illuminé par l'esprit qui était la langue du Seigneur, selon la définition de l'Écriture, et qui était lié à Dieu, qui est esprit, Dieu est esprit, et c'est par notre esprit que Dieu communiquait avec nous avant la chute. Et il illuminait toutes les puissances de l'âme, l'intelligence, la volonté, tout ce qui fait notre moi, nos sentiments, notre cœur. Et le corps était le serviteur, le vase qui contenait l'esprit et l'âme. L'âme étant le vaisseau de l'esprit. Et puis le corps, eh bien, qui contenait l'âme et l'esprit. Donc tout était dirigé par Dieu. Alors, l'intelligence de l'homme était extraordinaire, et j'ai dit que c'est lui qui a donné le nom à tous les animaux, parce que c'est l'Écriture qui nous le dit, cette Écriture que Jésus reconnaissait comme étant inspirée. Si vous touchez à la Genèse et au récit de la Genèse, c'est à la personne même de Jésus que vous touchez. Alors, c'est avec le Seigneur que vous devez régler ce compte. Parce que Jésus a dit dans la résurrection, quand il marchait avec ses disciples, avec les deux disciples d'Emmaüs, qui ne le reconnaissaient pas encore, il leur a expliqué dans toutes les Écritures, dans la loi, dans les psaumes et les prophètes, c'est les trois grandes parties de l'Ancien Testament, les choses qui le concernaient. Et puis après, à ses disciples, il leur a ouvert les Écritures pour qu'ils comprennent. Il leur a ouvert les Écritures. Et ce serait très, très utile aussi, mais ça, ce serait, nous n'avons pas le temps, de voir tous les textes que Jésus a cités. Il a parlé du deuil de la Genèse, au sujet du divorce. Quand les pharisiens sont venus, vous vous souvenez, parler au sujet du divorce, Moïse nous a donné la loi, n'est-ce pas? Et puis, voilà, et toi, que dis-tu? Et Jésus dit, au commencement, il n'en était pas ainsi, car Dieu les créa mâle et femelle, ou homme et femme. Et puis il ajoute, en citant textuellement le chapitre 2 de la Genèse, ce donc que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare point. Jésus donc a souligné ce récit de la Genèse. Et puis vous pouvez aller plus loin, il a parlé d'Abel, il a parlé de Noé, il en sera à l'heure de son retour comme au temps de Noé, on mangeait, on buvait, on se mariait, on donnait en mariage. Et puis, le déluge vint, et les filles tous. Père, il a parlé de Lot, et il a parlé d'Abraham, même en disant Abraham, avant qu'Abraham fût, je suis, n'est-ce pas? Donc, il a revêtu de son autorité tout l'Ancien Testament. Et puis, il a revêtu aussi de son autorité les prophètes. En particulier, le récit qui est tellement contesté aussi par les incrédules religieux, qui pensent que c'est un mythe, que c'est une histoire. Lequel? Jonas, n'est-ce pas? Jonas. Eh bien, Jésus dit, il ne vous, vous demandez un signe. Il ne vous sera pas donné de signe, si ce n'est le signe de Jonas. Comme Jonas a été 3 jours et 3 nuits dans le sein. Non pas de la baleine, il n'a jamais parlé d'une baleine, d'un grand poisson, ainsi le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Et puis on pourrait multiplier les exemples. Mais donc tout l'Ancien Testament a été revêtu de l'autorité du Christ. Ça, ça nous suffit pour croire qu'il ne s'est pas trompé. Parce que s'il s'est trompé, c'est qu'il n'était pas Dieu. C'est un pasteur touché par la théologie moderne, c'était moderne, c'était, j'avais 20 ans quand il me disait ça, et il prétendait que je péchais parce que je croyais à toute la Bible. Croire à toute la Bible. Eh bien, il me disait par exemple le récit de Jonas. Alors je lui avais dit, mais comme Jonas, ça a été 3 jours et 3 nuits dans le sein du poisson, le Fils de l'homme sera très vite participer aux erreurs de son temps. C'est comme ça qu'on répond, mais ça c'est ça. Mais Jésus, il participait aux erreurs de son temps. Alors j'ai dit, mais alors, monsieur Pasteur, oh, Fils de Dieu, oui, comme vous et moi. Et alors vous voyez, alors on est prédicateur, on est pasteur, on n'y croit pas. Ce que m'a dit encore un prêtre il n'y a pas si longtemps que ça, à Québec, j'ai dit, pourquoi est-ce que vous me demandez, moi, à les prêcher dans votre église? Vous avez tellement d'hommes là qui sont capables, qui ont des titres. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Mais parce que toi, tu y crois. Je suis pas un fonctionnaire. C'est ça qui est dramatique. Mais si je n'y croyais pas, ben je ne prêcherais pas. Comprenez-vous? Vous comprenez qu'on peut, on peut finir dans une dépression nerveuse après ça. Puisque quand on arrive quand même vers le bord de la force, c'est pas drôle. Et que c'est quand même Dieu que vous allez rencontrer.
Si on n'y croit pas, il n'y a pas d'espérance, c'est
ça. Mais non. Et puis alors, on a été des hypocrites. On a été des... J'ai dit, comment... Je disais à ce pasteur, comment pouvez-vous lire le jour de Noël le récit de la naissance miraculeuse? Il ne croyait pas, évidemment, à la conception miraculeuse, née de la Vierge Marie. Mais il récitait quand même ça. Et puis, il lisait. Alors, il dit, oh, je lis ça très vite. Non, mais c'est misérable, c'est minable, ces arguments. On n'est pas à sa place. J'aimerais mieux casser les cailloux sur les routes. Enfin, je parle d'un autre temps, hein, parce que maintenant, on n'est plus cantonnier comme autrefois, mais moi, je suis encore de la vieille école. Et j'ai connu des cantonniers qui étaient vraiment des croyants, puis qui cassaient les cailloux, puis qui faisaient bien leur chemin. Et puis quand quelqu'un passait, eh bien ils aimaient à parler du Seigneur. Et puis on écoutait le cantonnier, oui, qui avait quelque chose à dire, et qui avait vraiment un cœur pour le Seigneur. Et les gens s'arrêtaient, tout le monde connaissait le cantonnier chrétien, qui était authentiquement soutenu. C'est beau, les témoignages que Dieu a pu rendre par les plus humbles de cette terre. Et c'est tellement triste. Mais vous avez lu l'histoire de Nicodème. Voilà un homme qui était un grand théologien et qui a quand même eu le désir de rencontrer Jésus et d'en entendre un peu plus. Il avait vu une foule qui se convertissait et puis peut-être lui aussi avait manifesté vraiment un grand intérêt. Mais le Seigneur, il a dit que Jésus, vous avez lu ça ce matin, ne se fiait pas à eux. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé ce terrible événement, c'est que l'homme s'est séparé de Dieu. Mais, mes amis, avant la chute, quand l'homme était encore avec Dieu, il avait des possibilités merveilleuses. Alors, ce qui arrive, et ce n'est pas du tout ce qu'on nous a enseigné dans les écoles, nous sommes en présence d'une... comment vous appelez ça? Une évolution, mais que je dirais une évolution régressive. Oh, je fais quelque chose d'épouvantable. L'évolution régressive. Ayant connu Dieu, parce qu'on m'a demandé que je cite le verset, qui prouve que l'homme avait un cerveau et une intelligence et des possibilités, une potentialité extraordinaire. Le premier homme qui a été créé, qui est sorti des mains du Créateur, n'avait d'autre chose que nous. Eh bien, lisez le chapitre premier des Romains. Vous voyez, c'est toute cette épître aux Romains que vous devriez lire. Et je voudrais que vous ne disiez pas, oh, moi je la connais, l'épître aux Romains, on ne va rien apprendre de plus. Vous savez que Martin Luther, mais peut-être vous n'aimez pas quand on vous parle de réformateur, mais enfin, Martin Luther, c'était quand même lui qui a été un instrument de Dieu au temps de la réforme. C'était un catholique, c'était un moine, mais qui protestait au nom de la vérité de l'écriture qu'il avait lu. Il avait lu l'écriture dans le couvent et il demandait au pape de réformer les mœurs de l'église. Puis il n'a pas été compris, on l'a rejeté, mais il n'a jamais voulu faire une autre église. Et bien Martin Luther, lui, qui était tourmenté dans son âme, qui doutait de son salut et qui se flagellait le corps, n'est-ce pas, parce qu'on croit toujours que c'est dans le corps, c'est la chair, c'est le corps, alors il fallait détruire cette chair, hein, mortifier cette chair, on verra comment on peut la mortifier. Mais Luther a passé par une crise terrible jusqu'au jour où il a lu cet épître aux Romains, la justification par la foi et non pas par les œuvres. Et alors, depuis ce jour-là, vous savez combien de fois Luther lisait l'Épître aux Romains? Une fois par semaine. Une fois par semaine, pendant toute sa vie, depuis sa conversion, il lisait l'Épître aux Romains. Et c'est comme ça qu'on apprend à connaître la parole de Dieu. On en est imprégné, on en est baigné. Il y en a peut-être déjà ici qui peuvent se dire, bon, vous savez, on est déjà bien fatigué par tout ce que vous nous avez fait lire. Je peux très bien vous comprendre. Mais je voudrais quand même vous encourager, vous dire, persévérez. Vous en avez marre? Vous voulez partir? Vous voulez qu'on parle d'autre chose? J'aime beaucoup l'image que nous trouvons dans Ézéchiel. Dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel doit être conduit par un ange vers une rivière. Puis il y entre. L'ange lui dit d'entrer. Il a d'abord de l'eau jusqu'aux chevilles des pieds. Vous avez peut-être jusqu'à présent de l'eau jusqu'aux chevilles des pieds. Vous trouvez que vous pataugez un peu. Hein? Alors, qu'est-ce que vous allez faire? L'ange vous dit, avance. Et puis, il avance, et l'eau monte jusqu'à ses genoux. Puis alors là, tout le monde, mais moi, vraiment, m'incliner, prier, eh bien, avance encore. L'eau va jusqu'au rein. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant qu'on a de l'eau jusqu'au rein? Avance encore. Puis qu'est-ce qui arrive? On nage. Il y a assez de profondeur et vous pouvez nager. L'eau vous porte. Plus de blessures aux pieds, on ne se fait plus mal aux pieds. Il faut avancer toujours. Et c'est en avançant que vous avez davantage cette eau de la parole qui va vous porter. Vous n'allez pas vous noyer. Cette parole va vous faire vivre. Eh bien, que le Seigneur vous encourage, ne vous découragez pas. Laissez l'eau monter, laissez le travail se faire. Je ne vais pas vous inonder. Je laisse le Seigneur faire monter l'eau de sa grâce pour que vous soyez portés par sa grâce. Nous ne sommes pas des manipulateurs d'âmes. Nous respectons trop votre liberté pour vous contraindre à quoi que ce soit. Et nous vous aimons assez, et nous connaissons assez le Seigneur pour lui faire éperdument confiance au sujet de votre salut. Comme Paul le disait devant Agrippa et Bérénice, qui étaient des gens, frères et sœurs, qui vivaient dans l'inceste, il dit, plus à Dieu, vous soyez tous comme moi, hormis ces liens. Il ne leur a pas dit, si vous ne vous convertissez pas maintenant, tout de suite, sur l'heure, hein, en sortant, vous allez mourir. Plût à Dieu, que ce soit tôt ou que ce soit tard, mais moi je souhaite que ce soit tôt pour vous. parce que être sauvé, c'est maintenant qu'il faut l'être, c'est maintenant qu'il faut jouir de la paix avec Dieu. Et bien sûr que peut-être que vous aurez des renoncements à faire, mais ces renoncements, quand on a vu ce qu'était le Seigneur, si le Saint-Esprit vous révèle qui est Jésus, mais pour Jésus, vous pouvez tout quitter. Et c'est cela que je demande au Seigneur, que vous fassiez cette expérience de l'apôtre Paul qui dit, mais maintenant moi, j'estime toutes ces choses auxquelles je tenais, qui avaient tellement d'importance pour moi, selon la chair, j'estime cela comme des ordures. Vous voulez garder vos ordures? Oh mes chers petites ordures, que je les aime, je couche avec mes ordures. Toutes choses, je les estime comme des ordures, afin de gagner Christ, avoir Christ. Les choses qui pour moi étaient un gain, dit-il, je les considère comme une perte. C'est le plus grand des trésors. Mais c'est lui que vous devez voir, parce que si je vous donne que des doctrines ne vous disent rien. Mais si vous pouvez discerner la personne, contempler Jésus, que Jésus soit votre sauveur, votre Seigneur, le bien-aimé de votre âme, parce qu'il veut être cela. Il veut devenir votre bien-aimé, pas seulement un sauveur qui vous délivre de la mort et du jugement éternel, mais le Seigneur de votre vie, qui va diriger votre vie dans le présent, qui va vous conduire pas à pas, un jour à la fois, qui ne vous demandera pas plus que vous ne pouvez supporter. Vous savez, moi je suis émerveillé de voir la tendresse de notre Dieu. C'est un père au cœur de mère. Je n'ai pas besoin d'aller dans une église de Toronto où on a mis une femme crucifiée. Au lieu que ce soit un homme, ils ont mis dans leur église une femme crucifiée parce que c'est le mouvement féministe. Et alors, bon, Dieu c'est une femme de plus. Il ne doit pas être mal, comme si Dieu était mal. C'est de la folie furieuse. Dieu, nous l'adorons. Il est amour, il est un père, et ça veut dire quelque chose au cœur de mère. Comme quelqu'un que sa mère console ainsi, je vous consolerai, et vous serez consolé. Voilà le Dieu que nous connaissons. Et il est la tendresse, avec un grand T. Et quand nous le connaîtrons, c'est vraiment la tendresse que nous découvrirons. Mais il faut déjà la découvrir ici-bas. Et alors, nous voici réconciliés avec tout ce qui peut nous arriver. Dieu ne peut pas être contre nous. Il est pour nous. Toutes choses travaillent pour nous. Dieu nous aime. Mes bien-aimés, Dieu vous aime. C'est vous qui ne vous aimez pas. C'est pour ça que ça vaut la peine de perdre sa vie pour la gagner. La vraie vie que lui veut nous donner. Puissiez-vous le croire? Dieu est amour. Et voyez-vous, il était tellement amour, comme nous l'avons vu, et qu'il voulait avoir une famille dans le ciel. Lui, l'être bienheureux, ne voulait pas garder ce bonheur pour lui. Il voulait une famille dans le ciel, des êtres qui soient comme qui? Comme lui et comme son fils. Et le fils était pleinement d'accord avec le père. Il ne s'agissait rien qu'il y ait des adoptés. Et des adoptés tellement adoptés qu'ils deviennent comme ses propres frères. Je n'ai pas honte de les appeler mes frères. L'amour du Père, l'amour de Jésus. Ils veulent une famille pour lui. Et c'est ainsi que l'homme a été prédestiné à être semblable à l'image de son Fils. Oh, que Dieu, par son esprit, vous révèle le visage de son Fils. Il peut le faire. Mais sur quoi vos pensées sont-elles fixées? Qu'est-ce qui nourrit vos pensées dans le quotidien? Dans le quotidien, parce que c'est ça qui compte. Hein? Dans le quotidien, vous êtes tous au travail, vous avez tous des responsabilités, bien sûr. Mais le Seigneur aussi en a eu des responsabilités. Il peut vous comprendre. Et il est capable de vous aider dans toutes les situations. Demandez-vous. Frappez, l'on vous ouvrira. Comptez sur lui, faites-le entrer dans vos propres circonstances. Ne soyez pas de ceux qui disent, aide-toi, le ciel t'aidera. je fais d'abord moi ce que je peux, puis après le Seigneur m'aidera. Non, je n'ai rien à faire. J'ai à me laisser faire par lui. Mais alors, lui, il travaille, mais il va travailler avec nous. Il a besoin d'instruments, et il voudrait que vous soyez les instruments de son cœur. C'est ça qui serait formidable. Hein? Dieu vous engage, puis vous donne la sécurité. Vous avez toujours peur pour votre sécurité, mais avec le Seigneur, on a la sécurité. Puissions-nous le croire et être sûr que je ne vous mène pas en bateau, mais c'est ça la vérité. Dieu est amour et il veut des êtres comme son Fils. Mais alors, s'il veut un être, des êtres comme son Fils est un être libre. Il veut des êtres qui soient libres. Il aurait pu nous obliger de l'adorer. Il aurait pu faire que nous n'ayons pas du tout de possibilité de pécher, que nous soyons obligés d'être soumis à certaines lois. Mais il ne veut pas un esclave. Il veut un être qu'il adore volontairement, librement. Mais alors, la création d'un être libre comportait un risque. Et c'est là que je vois l'amour de Dieu. Dieu n'a pas renoncé à son projet d'une création d'un être libre. Il le voulait semblable à lui. Eh bien, il court le risque. Parce que si l'homme est vraiment libre, il pourrait lui dire non. Et bien, au cas où l'homme disait non, Dieu avait un plan. Et c'est de ce plan de la rédemption que je voudrais vous parler de plus en plus. On va y entrer. On a parlé de la création. Il y avait d'abord la création, le plan de la création. Dieu a vu d'avance ce qu'il ferait avec l'homme, il va le prédestiner à être semblable à son Fils. Mais au cas où l'homme disait non, parce que si l'homme avait dit oui, si l'homme était allé manger du fruit de l'arbre de vie, eh bien, il aurait été amené de l'innocence où il avait été créé, car Adam était créé dans l'innocence, il aurait été amené de l'innocence à la sainteté qui aurait été son éducateur. Dieu. Il n'y aurait jamais eu de séparation avec l'homme. C'est Dieu lui-même qui allait éduquer l'homme et l'ayant créé, il allait l'amener à la sainteté et de la sainteté, il allait le faire entrer où ? Dans la gloire, sans passer par la mort et les humiliations du sépulcre. Tout cela est venu après coup, à cause de la chute. Mais Dieu n'a pas préparé la mort, Dieu n'a pas préparé le sépulcre et la décomposition. Cette chair qui caractérisait l'homme sans péché, Adam était sans péché, eh bien cette chair aurait été élevée jusqu'à la gloire. Mais tant qu'elle était en relation avec l'Esprit qui était lié à Dieu. Mais l'homme s'étant séparé de Dieu et ayant désobéi, parce que c'est ça le péché. Le péché, c'est avant tout, et j'aimerais bien que vous le saisissiez une fois pour toutes, et je pourrais vous citer tous les versets de la parole, mais le péché, c'est pas un acte d'abord. Le péché, c'est une attitude. Le péché, c'est une désobéissance. C'est dire non. C'est ne pas vouloir de Dieu. C'est penser qu'on peut se séparer de Dieu. Le péché, c'est cet orgueil qui vous fait croire que vous pouvez vivre d'une façon indépendante. Je l'ai dit ce matin, l'indépendance n'est l'apanage d'aucune créature. Puisque vous êtes un être qui a un commencement, vous dépendez de votre créateur. Souviens-toi de ton créateur. Parce que tout ou ça, c'est ton créateur que tu vas rencontrer. Il ne faut pas vous imaginer que vous allez rencontrer le diable à la fin de votre vie. Qu'est-ce que vous allez rencontrer ? Au bout de tous nos chemins, qu'est-ce que nous allons rencontrer ? Dieu. Prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Il est au bout de tous les chemins. Tu peux lui tourner le dos pendant des jours sans nombre. Au bout de ton chemin, quel que soit le chemin que tu prennes, le chemin large, comme le chemin étroit, au bout du chemin large, comme au bout du chemin étroit, tu rencontreras Dieu. Mais, au bout du chemin large, C'est un Dieu qui est un juge, qui n'a pas parlé pour ne rien dire, et tu seras condamné. Au bout du chemin étroit, c'est un Dieu qui est un père, un sauveur, qui te dira, viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Dieu. Alors vous me direz, mais alors Satan, qu'est-ce que vous en faites? Mais Satan, il est là, aujourd'hui. Son action, c'est aujourd'hui. Satan n'est pas un autre Dieu. Satan est une créature de Dieu. Et il ne peut pas faire plus que ce que Dieu lui permet. Je ne dis pas que Dieu veut, mais ce que Dieu lui permet. Parce qu'il est une créature. Et alors, ce que Satan vous dit, mais non, mais tu as le temps. C'est maintenant que Satan essaye de vous entraver. C'est maintenant que Satan vous met du doute dans le cœur. Alors, puissiez-vous dire, arrière de moi, Satan. Satan n'est pas le roi de l'enfer. L'enfer a été fait, non pas pour vous, pour les hommes, il a été fait pour le diable et ses anges, hein, mais pas pour l'homme. De sorte que tout a été accompli, comme nous allons le voir, pour que personne parmi les hommes n'aille en enfer. Jésus est venu. Le Fils de Dieu est descendu. Et pour qu'une personne aille en enfer, il faut passer sur le corps de Jésus. Et vous savez, il y en a beaucoup qui passent sur le corps de Jésus. Jésus est descendu le plus bas possible, de sorte que toute âme a une possibilité de le rencontrer. Mais si vous ne voulez pas, alors vous foulez aux pieds le Fils de Dieu. Vous foulez aux pieds le Fils de Dieu. Vous estimez profane le sang de l'Alliance par lequel vous étiez sanctifié. Le sang avait été versé pour vous. Mais vous marchez. Alors moi je dis ça, j'ai vu des accidents. On ne marche pas sur le sang. Hein. Quand vous voyez du sang sur la rue, vous voyez les gens qui s'écartent. On ne marche pas sur le sang. C'est-à-dire, pour espérer, il faut vraiment marcher sur le sang de Jésus. Il faut estimer profane le sang qui nous avait sanctifié, mis à part. Et puis, il faut outrager l'Esprit de grâce. Parce que le Saint-Esprit, comme il couvait cette terre désolée de Genèse 1, le Saint-Esprit est là, qui travaille, qui vous travaille, qui cherche à vous convaincre de péché, que, au fond, vous êtes malheureux dans la situation présente, et il voudrait vous donner autre chose. Ne résistez pas à l'action du Saint-Esprit qui vous sollicite et qui veut vous conduire à Jésus et à Jésus seul. Alors, quand l'homme s'est séparé de Dieu, eh bien, qui est devenu son maître, au lieu de devenir indépendant, il est devenu un esclave. L'esclave de qui? De Satan, de celui qui l'a écouté. Et le diable domine maintenant sur l'homme naturel. L'homme n'est plus que chair. Vous l'avez lu dans Genèse 3. Et Dieu dit, pourquoi est-ce que je continuerai avec l'homme puisqu'il n'est plus que chair. C'est ça la chute. La chute, l'homme est retombé sur lui-même. Il était dans la dépendance de Dieu. Alors, il avait tout de Dieu, la lumière, la vie, la bénédiction, tout lui venait de Dieu tant qu'il était en relation avec Dieu. Mais il n'avait rien en lui-même. Tout était reçu du contact qu'il avait avec Dieu. Couper la communication avec Dieu, il n'y a plus rien. Il n'y a plus que la chair. Et alors oui, il y a encore des potentialités dans l'âme, mais hélas, c'est le corps, c'est les sens qui ont pris le dessus. Et pourtant, Dieu, en chassant l'homme du jardin d'Éden, a encore eu de la patience. Il ne l'a pas fait mourir immédiatement. Il lui a laissé encore du temps, à qui il fallait que maintenant l'homme apprenne sa faiblesse, que laissé à lui-même, il n'avait plus rien, et qu'il était devenu esclave. Alors, vous voyez, jusqu'au chapitre 6, verset 4, ce que vous avez lu, ces hommes qui avaient tant reçu de Dieu, eh bien, ils se sont éloignés de Dieu, et tout cela, je vais le relier au chapitre 1er des Romains, pour que vous ne disiez pas que je m'égare, pour vous montrer cette évolution régressive que j'ai mentionnée tout à l'heure. Verset 18 du chapitre 1er des Romains, vous l'avez peut-être lu. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, donc les hommes, les premiers hommes, ont connu Dieu, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ni ne lui ont rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur, destitué d'intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Ils avaient été créés intelligents, et suprêmement intelligents. Mais n'étant pas restés en communication avec Dieu, ils ont perdu cette intelligence, ce degré d'intelligence. Et ils ont évolué, mais d'une façon régressive. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en des images représentant l'homme corruptible. Et vous voyez, c'est toute l'origine du paganisme. On a adoré d'abord l'homme, puis on est descendu plus bas. Au lieu d'adorer Dieu, on a adoré l'homme, puis après, on a adoré des oiseaux, on a déifié des oiseaux, des quadrupèdes, vous voyez le bœuf, le veau d'or, et puis des reptiles, on est allé jusqu'à adorer la pierre. C'est pourquoi, alors, quand ça arrive ainsi, Dieu les a livrés, et c'est quelque chose de terrible ça, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. C'est tout les sens qui ont pris le dessus, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi, c'est quelque chose de terrible. Et dans le chapitre 6, quand il est dit que Dieu dit « il n'est que chair », vous pouvez relier le chapitre 6 de la Genèse à ces passages. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions merveilleuses. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel ou celui qui est surnaturel. Oui, c'est ça votre version. Corrigé de nos sens. Dire que maintenant on accepte des pasteurs, des femmes, des hommes, des prêtres aussi. Oh non, mais c'est l'amour. Il s'aime. Comprenez ? Nos enfants doivent vivre dans un monde pareil. Chacun fait ce qui est bon à ses yeux. Puis encore on met le nom de Dieu là-dedans. Alors qu'un médecin croyant disait que le sida, par exemple, c'est un médecin parisien, un grand médecin disait, ça c'est le doigt de Dieu. Mais aujourd'hui, le sida, on l'admet. Puis il faudra faire encore d'autres choses. Mais j'ai beaucoup de compassion pour ceux qui sont tombés. Je ne vais pas dire que c'est... Qu'est-ce qu'ils font ? C'est une chose qu'ils doivent continuer de faire. La parole de Dieu, elle est claire à ce sujet. De même, les femmes ont abandonné l'usage naturel de la femme, se sont enflammées dans leurs désirs, les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes. Je me souviens, j'étais avec mon ami René Page, qui est auprès du Seigneur maintenant, une fois, on dirigeait un camp en Europe, puis il y avait un médecin qui était là, il n'était pas d'accord avec nous, parce qu'il disait que c'est une maladie comme les autres, on a des tendances acquises, etc. Parce que maintenant, le péché, c'est plus le péché. Il y a quelques années, quand je suis retourné en Suisse pour faire des conférences, on m'a dit, employez des synonymes. Mais ne parlez pas de péché. On ne peut plus Puis même ici au Québec, on a tellement été culpabilisés. Moi, je voudrais justement que vous soyez déculpabilisés et qu'on ose parler du péché pour qu'on en ait fini avec le péché. Et que vous soyez libérés du péché et que vous ne soyez plus occupés par vos péchés, mais que vous ayez eu une délivrance vraiment dans le Seigneur. Mais il faut appeler les choses par leur nom. Parce que ça, si on a une maladie et qu'on ne veut pas se soigner, bien, qu'est-ce qui arrive? On en meurt, hein, c'est clair, c'est clair. Mais on passe peut-être par un mauvais moment quand on apprend notre état. Mais regardez, quand on me demande, est-ce que vraiment l'homme avait toute cette sagesse? Oui. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Quand Dieu voit que tu ne veux pas de lui, il te laisse. Et il te laisse aller jusqu'où on dit, mais pourquoi est-ce que Dieu n'empêche pas cela? Pourquoi vous voulez que Dieu se mette à votre mort? Dieu a parlé, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Ils reçoivent en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. C'est pas moi qui le dis, c'est pas avec moi que vous n'êtes pas d'accord. Ce qui n'empêche pas que j'ai beaucoup de compassion pour tous ces gens, n'est-ce pas? Mais ce qu'il faut leur apporter, c'est la délivrance, la parole. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Dieu les a livrés à leur souffre éprouvé pour commettre des choses indignes. Voilà pourquoi Paul dit qu'il cherche Dieu, il veut connaître Dieu. Parce que si on ne cherche pas Dieu, qu'est-ce qu'on cherche? Étant rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, c'est tout ce que vous trouvez dans les journaux chaque jour. C'est ça? Rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux, au mal, rebelle à leurs parents, dépourvu d'intelligence, mais vous voyez, ils en avaient de l'intelligence, mais ils sont arrivés à en être dépourvus. L'affection naturelle de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, le jugement de Dieu était connu. Déclarant indigne, déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les pratiquent. Comprenez-vous? C'est pas moi qui dis cela. Mais si je n'y croyais pas, je brûlerais ma Bible. Mais alors si je prends la parole au sérieux, eh bien je dis, bien Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Parce que tout cela, j'ai toutes ces tendances en moi. L'esprit est dans les ténèbres. L'âme, c'est-à-dire l'intelligence, la volonté, tout cela, eh bien, c'est une volonté qui n'est plus soumise à l'esprit qui était éclairé par Dieu. Maintenant qu'il est dans les ténèbres, il procède peut-être encore par la conscience, parce qu'on n'est pas si heureux que ça dans le péché. Comme dit Tolstoï, le péché laisse un arrière-goût de cendre. Et c'est vrai, hein. Et les délices du péché sont des délices de peu de temps. Et puis alors, voilà, le corps domine. Ce sont les passions, les sens qui dominent sur l'âme. Et l'âme domine sur l'esprit. Et alors, le diable s'empare. Il s'empare de l'homme naturel. Ça, c'est l'homme naturel. L'homme qui avait été créé par Dieu, mais qui s'est éloigné de Dieu. Alors, sa nature, c'est une nature de ténèbres. Il est dans les ténèbres. Et c'est là justement que nous naissons. Nous naissons dans le royaume des ténèbres dont Satan est le prince. C'est la sphère du péché et de la mort. Dieu avait parlé. Et il avait dit, au jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Et Ève a dit que Dieu avait dit de peur que vous mouriez. Elle a affaibli la déclaration de Dieu. Et c'est toujours comme ça, ça commence. On affaiblit les déclarations de Dieu. Dieu avait dit, tu mourras certainement. Aussi bien qu'on a dit, cette parole est certaine. Avec Dieu, c'est toujours certain. Tu mourras certainement. Alors, quand nous naissons, eh bien, nous ne naissons plus comme Adam dans l'innocence. Nous sommes des enfants qui sont faits à la ressemblance d'Adam après la chute. Alors là, je vous lis un autre verset, pas parce que je veux vous assassiner avec des versets bibliques, mais c'est un ensemble des Écritures. Chapitre 5. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu, hein, c'est clair, hein, à la ressemblance de Dieu, donc prédestiné à l'image de son Fils. Il créa l'homme et la femme et il les bénit, et il les appela du nom d'homme lorsqu'il fut créé. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à la ressemblance de Dieu. À sa ressemblance, mais ressemblance d'un homme en chute, d'un homme qui n'est plus que chair. Et l'imagination des pensées de son cœur était méchancée en tout temps. Et vous avez vu au chapitre 6, Dieu a laissé les hommes aller, bien, puisque vous pensez que vous pouvez vivre sans moi, il les a laissés dans leur état. Et quelle a été l'expérience? Ils sont devenus tellement mauvais que Dieu n'a plus pu les supporter. Il n'est pas intervenu immédiatement, il les a laissés pour faire les expériences. Et on est arrivé au temps qui précédait le déluge, au jour de Noé, qu'est-ce qu'il y avait? La corruption et la violence étaient sur la terre. Voilà les jours de Noé. Violence et corruption. Quels sont nos jours aujourd'hui? Violence et corruption. Et qu'a dit Jésus quand il annonce son retour? Quand il reviendra, il en sera comme au temps de Noé. Alors, d'un côté, les hommes mangeaient, buvaient, en mariage, la vie continue, mais la corruption et la violence. Et qui est le maître de tout cela? C'est Satan, le meurtrier et le père du mensonge. Nous devons bien comprendre ça. Mais alors, l'homme, enfin, a fait le mauvais choix. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Est-ce qu'il va le laisser? Il limite la vie à 120 ans, mais vous voyez, il donne encore une possibilité à l'humanité au temps de Noé. Il dit que les jours de l'homme seront 120 ans, ça ne veut pas dire que maintenant les hommes ne vivront que 120 ans. C'est pas vrai, parce que après Noé, il y a des gens qui ont vécu plus de 100 ans. Qu'est-ce que ça voulait dire? Que depuis qu'il parle à Noé, pour le monde, il a encore combien de temps de grâce? 120 ans. Mais après 120 ans, il y aura quoi? Le déluge. Mais qui va croire au déluge? Il faut être Noé pour croire ça. Le père Noé l'a cru. Il l'a cru. Il a sauvé sa famille. Il a cru. Dieu l'a discerné comme un homme qui pouvait encore écouter sa parole et le croire. Et il lui a donné l'ordre de construire une arche. Une folie. Construire une arche en terre sèche, un bateau en terre sèche, c'est une pure folie. Mais si c'est Dieu qui dit cela, si c'est Dieu qui demande cela, alors on se soumet. Noé s'est soumis. Puis il a prêché, il a dit qu'il a été prédicateur de justice pendant 120 ans qu'il construisait son arche. Il a mis des ouvriers, bien sûr, pour construire son arche, qui ont eu l'occasion d'entendre ce Noé leur témoigner. La porte était ouverte pour eux, pour entrer dans l'arche, mais ils n'y ont pas cru. Et puis, un jour, Noé est entré, et les animaux, parce que Dieu aime les animaux, c'est lui qui les a créés, les animaux ont été préservés pour qu'ils puissent continuer. Eh bien, les animaux sont venus. Il y a un instinct chez les animaux, parce que les animaux ont aussi une âme, hein. Ils n'ont pas l'esprit des animaux. Vous avez ça dans le chapitre 12 de Job, au verset 10. Lui, dans la main duquel est l'âme de tout être vivant et l'esprit de toute chair d'homme. Verset 10 du chapitre 12 de Job. Lui, dans la main duquel est l'âme de tout être vivant. Les animaux ont une âme. Et là, si je voulais vous parler de l'âme, l'âme, c'est le sang. Dans le Lévitique, les animaux ont une âme, mais l'homme seul a l'esprit. C'est pourquoi, dans l'Ecclésiaste, quand il est dit, apparemment, quand on meurt, tout va dans la même, dans le même endroit. Hein. Est-ce qu'il y a une différence entre les animaux et les hommes quand on meurt? L'esprit et qui retourne à Dieu qui l'a donné. tandis que l'animal meurt. Oui. Oui, mais alors ça, on en parlera peut-être on aura peut-être un autre moment, mais si on entre là-dedans, alors on n'est plus tout à fait dans le sujet. Mais ce sont des anges. Mais qui avaient une mission, certainement une mission à accomplir auprès des hommes, et qui revêtent un corps pour se manifester. Et il y a eu cette convoitise chez les anges, il en est parlé dans Jude aussi. Ces esprits peuvent revêtir un corps. Enfin, c'est quelque chose de monstrueux. Mais nous sommes dans ce temps-là, mes amis. Toutes les puissances spirituelles de méchanceté s'incarnent aujourd'hui. Et ça donne des géants. Les médiums, tout ce que vous voulez encore. Et il y a des chrétiens qui vont les consulter, qui se mettent sous ces puissances sataniques. Et après, ils se plaignent d'avoir une dépression nerveuse. Vous allez consulter des bonnes femmes, des diseuses de bonne aventure et tout ce que vous voulez. Et puis après, on est malheureux. C'est l'heure de comprendre que nous sommes comme au jour précéder le déluge. Les esprits sataniques s'incarnent et cherchent à nous posséder. Et ça fait des géants. Le pape même prend de la drogue. C'est quelque chose d'abominable. Mais nous sommes dans ce temps-là. Ces puissances sataniques. Notre lutte n'est pas contre la chair. Elles sont, mais contre ces puissances spirituelles de méchanceté qui sont dans les lieux célestes. Et il y a une action maintenant épouvantable de ces puissances sur les âmes. C'est pour ça qu'il sera très intéressant, très important de savoir si on est conduit par notre âme ou si on est conduit par notre esprit, parce qu'il faut savoir discerner. Il y a des gens, n'est-ce pas, qui ne commettent pas adultère, il y a des gens qui ne tuent pas, etc., mais qui pourtant sont sous la puissance de Satan. Et l'énergie qui les fait marcher, qui les fait avancer, c'est l'énergie de Satan. Ce sont des morts spirituels et qui pourtant marchent. Vous avez déjà vu un cortège de morts? Il y a beaucoup de marches hein, dans le Québec. Il y a eu la marche, justement, des homosexuels. Ils étaient 600 dans les rues de Montréal pour manifester leurs droits. Ils voulaient des droits. Alors, il y a toutes sortes de marches. C'est pour ça que moi, je ne marcherai pas avec aucune marche. Pas même pour le Seigneur. Il y a trop de mélange. Que le monde fasse ses marches, c'est ses méthodes, mais nous, nous n'avons pas à faire ces manifestations-là. Quand les vrais chrétiens, au lieu d'aller marcher avec n'importe qui, soi-disant pour se montrer qu'ils sont pour les droits de ceci ou pour les droits de cela, se mettraient à genoux et je leur écrirais, on verrait autre chose. Non, on emboîte le pas, ça met la chair en avant. Nous sommes contre ceci, nous sommes contre. Et ça nous met en avant. Et on parle de nous dans les journaux. Voyez-vous, chers amis, je sais très bien quand je me ferai fusiller, mais ça fait rien. C'est dans le programme. C'est dans le programme. Mais nous devons dire ces choses. Parce que ce qui me montre cela, c'est que Dieu est contre les prophètes. Vous êtes des faux prophètes. Vous dites au peuple pépé quand il n'y a pas de paix. Vous ne les conduisez pas, vous ne relevez pas le chemin qu'ils prennent. Ce ne sont pas les traces de Jésus. Vous avez vu Jésus faire des marches pour son père? Il marchait toujours, lui. Il ne peut pas faire des marches. Il marchait, lui. Il marchait, vous n'aurez pas besoin de faire des marches. Marchez comme Jésus a marché. Le vrai chrétien doit marcher comme Jésus a marché. C'est ça qui compte. C'est d'avoir cette marche-là individuelle, se mêler avec tout le monde pour faire des grandes manifestations, comme quelqu'un qui est venu de Toronto et qui a dit, mais maintenant, pour que vraiment on en mette plein la vie aux catholiques au Québec, il faut qu'on ait une église de 10 000 personnes, 10 000 membres. Hein. Alors là, on verra qu'on est un peu là. nous les évangéliques. Si vous dites ça, c'est la grande misère. Vous voulez le nombre? Qu'est-ce que Jésus a dit? Là où
deux ou trois
sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu de ce triomphalisme qu'on a reproché à la religion romaine. Il entre à plein flot dans les milieux dits évangéliques, parce qu'il y a des conversions. Mais ces conversions, est-ce que Jésus se fie à ces conversions? Est-ce qu'il y a vraiment la vie de Dieu? Ou bien est-ce que vous dépendez de votre pasteur, ou dépendez de vos anciens, ou bien est-ce que vous avez une vie directement personnelle avec le Seigneur, pouvoir apporter aux autres quelque chose? C'est cela que nous ambitionnons pour vous, pour vos âmes. Il faut que lui croisse en vous, puis que nous, nous diminuons. Il faut que vous n'ayez plus besoin de nous. Il faut que vous ayez le Seigneur qui demeure et qui ne vous déçoit pas. Parce que si vous mettez votre confiance dans les hommes, tout autour, les hommes vous déçoivent. Et Dieu permet qu'ils vous déçoivent. Parce qu'il ne donne pas sa gloire à un autre. Comprenez-vous? Il ne donne pas sa gloire à un autre. Vous devez être lié au Seigneur. Et c'est cela qui compte. Alors, ce risque d'une création libre, eh bien, le Seigneur l'a couvert. Dans l'éternité passée, si l'homme faisait le mauvais choix, l'agneau de Dieu était préconnu dès avant la fondation du monde. Ça c'est 1 Pierre chapitre 1 verset 19. Dieu, au cas où l'homme faisait le mauvais choix et se séparait de lui, Dieu voudrait tout de même sauver l'homme, mais par un chemin plus long, il l'amènerait quand même à la gloire. Mais par un chemin plus long, le chemin de la connaissance du bien et du mal, où dans ce chemin que l'homme avait choisi, il expérimenterait qu'il connaît le bien, oui, mais qu'il n'est capable de faire que le mal. Il a peut-être le désir de faire le bien, mais il n'en a pas la force. Pourquoi? Parce que la chair, elle est faible. Alors, s'il n'est plus que chair, comme Jésus l'a dit, hein, la chair est faible. L'esprit est prompt, mais la chair est faible. Et alors, on n'est pas capable, on n'est pas capable, mais on pense qu'on peut faire le bien. Alors, on a le désir, on a quand même, on est une créature de Dieu, on a quand même une origine, et cette origine, elle est divine. Cette origine, elle est divine, mais voilà, je n'ai plus la capacité de faire le bien, je n'ai plus la capacité d'employer mon intelligence pour ce qui est bien. Il me faudrait être renouvelé. Il faut ce renouvellement. Mais pour que j'ai ce renouvellement, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, Jésus était l'agneau de Dieu, le Fils de Dieu, préconnu dès avant la fondation du monde, et qui serait manifesté au temps propre. Et alors c'est cela, et je pense que ça va préparer notre culte de demain, cette incarnation. Malgré ce que vous avez lu de la chair, n'est-ce pas que la chair ne sert à rien, et la chair, ce qui est né de la chair est chair, il faut naître de nouveau. Les enfants d'Adam sont les enfants d'Adam, ils ont la chair, ils ont la faiblesse de la chair. Et puis, Romains 8, on va y revenir, nous montre tout cela. Mais pourtant, pour venir sauver les enfants de la chair, il a fallu que Jésus prenne, que le Fils de Dieu prenne un corps de chair. Mais de chair sans péché. Il est venu pour refaire la vie du premier Adam qui avait été un échec. Et il est venu pour vivre la vie que Dieu voulait pour l'homme. Puisque l'homme n'a pas compris ce que Dieu voulait de lui, quand Dieu lui a donné la vie, n'est-ce pas? Eh bien, un second homme, le dernier Adam, le second homme, est venu du ciel. Le premier avait été tiré de la terre, poussière. Le second homme, il est venu du ciel. C'est chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens. Et alors, Jésus a dit à son Père, « Me voici, envoie-moi. Tu n'as pas voulu de sacrifice ni d'offrande, mais tu m'as formé un corps. » Et ce corps a été formé où? Dans le sein de la Vierge Marie. Alors voilà pourquoi nous aimons Marie, parce que Marie, elle n'a pas résisté à l'appel de l'ange. Elle a dit son oui quand le temps est venu. Mais avant, et ça nous en parlerons ce soir, pour que l'homme soit bien convaincu qu'il n'était pas capable de se conduire par lui-même, de s'améliorer, Dieu a donné une loi à l'homme en choisissant le peuple d'Israël après le déluge. Après le déluge, qu'est-ce qui est arrivé? Quelle a été l'expérience de l'humanité après le déluge? Ils venaient d'être sauvés, les enfants de Noé. Ils ont commencé. Il n'y a pas d'amélioration possible. Il y a le salut qui est donné à Noé, à sa famille, et puis voilà qu'après le déluge, c'est de nouveau l'idolâtrie. Il retombe dans l'idolâtrie à un tel point que Dieu doit de nouveau intervenir. Et qu'est-ce qu'il choisit au milieu des païens à Ur de Chaldée? Un homme, Abraham. Et il va recommencer avec Abraham. Et à Abraham, qu'il choisit, il a 75 ans, il le sort des idoles, il le sépare des idoles, parce qu'on était idolâtre à Ur de Chaldée. Il lui dit, sors de ton pays et de ta parenté pour aller dans le pays que je te montrerai. Et il obéit, et c'est ainsi que, ayant cette promesse, il marche avec le Seigneur. Alors il y a toute la marche d'Abraham, qui a pris Abraham à un fils qui s'appelle Isaac, Isaac à un fils qui s'appelle Jacob, et finalement vous avez les 12 tribus d'Israël descendants de Jacob, mais qui doivent être éprouvées en Égypte pendant que, pendant 400 ans encore, Dieu laisse les descendants de l'humanité procréer. Mais qu'est-ce qui arrive? Il y a une telle corruption dans le pays de Canaan que le Seigneur va aussi détruire les Cananéens, non plus par un déluge, mais par l'épée d'Israël, du peuple d'Israël. Mais Israël doit d'abord être pendant... Et non, il doit être d'abord en Égypte pendant 400 ans. Ils sont en Égypte jusqu'au temps où Moïse est suscité. Mais Moïse encore, il est allé trop vite. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Dieu avait dit à Abraham qu'il ne serait qu'étranger dans le pays de Canaan jusqu'à ce que l'iniquité des Amoréens soit amenée à son terme, à son comble. Donc Dieu a donné encore aux Amoréens, à tous ces peuples du pays de Canaan, un temps pour se repentir. Ils ne se sont pas repentis, alors Moïse est suscité de l'Égypte, mais il est allé trop vite, il était 40 ans en avance. Alors, il est sorti frais et moulu des écoles égyptiennes, où il a été éduqué, et il pense qu'il est capable maintenant de sauver Israël, d'être le rédempteur d'Israël. Puis qu'est-ce qu'il fait quand on y va avec nos propres forces et nos meilleures intentions, avec toutes les puissances de notre âme, les facultés de notre âme? Et que c'est pas quand même l'esprit qui nous dirige, il a tué. Et vous voyez le pauvre Moïse qui s'enfuit, puis qui va garder les troupeaux d'un homme qui devient son beau-père. Et au bout de 40 ans, c'est le buisson, pas c'est l'heure. Et c'est la révélation du Seigneur. Le Seigneur agit. Mais il nous faut rester dans la dépendance du Seigneur. Mais Israël, évidemment, reçoit la loi, parce qu'ils prétendent, quand ils sont arrivés au Sinaï, que Dieu nous dit ce que nous devons faire, et nous le ferons. Alors Dieu donne la loi. Vous connaissez la loi? Faites ces choses, et vous livrez. Mais cette loi, qui est à la base de la plupart des codes civils du monde, de tous les pays, est-ce que l'homme la pratique? Même la lettre de la loi? Et comme nous le verrons ce soir, ne vous figurez pas que la loi est l'expression vraiment uniquement de la volonté de Dieu. Parce que alors la volonté de Dieu n'irait pas très loin. Pas tuer, pas voler, pas commettre adultère, c'est pas grand-chose. Si c'est ça l'expression de la pensée de Dieu, Dieu aime tout autre pensée. Mais les hommes pensent, voilà, on l'a satisfait, la loi, puis pourtant, elle est constamment transgressée, la loi. Même dans cette lettre, on tue, on blasphème, le nom de Dieu, on le prend en vain. Même quand vous dites mon doux, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une expression qui devrait quitter vos lèvres. Parce que vous n'allez pas prendre le nom de Dieu en vain, même si vous expropriez son nom. Dieu n'est pas mon doux. Il est doux. Hein? Il y a un tas de choses que nous devrions comprendre, être assez sensibles pour qu'on voit que nous sommes quand même différents. Et la loi, alors, qu'est-ce que les Israélites en ont fait? Ils l'ont transgressé. Ils sont devenus des transgresseurs. Alors, là, le péché a été manifesté dans toute son horreur. Le péché s'est mis à abonder quand la loi a été donnée. Parce que le péché, c'était avant tout une attitude. Mais maintenant que la loi a été donnée, on a vu les péchés. Le péché, c'est l'attitude du cœur, c'est l'arbre, si vous voulez, et les péchés, c'est les branches, ce sont les fruits. Le péché, c'est l'arbre, c'est la racine, si vous voulez, même si je m'appelle racine, oui, c'est ça. Et puis, les péchés, eh bien, c'est les fruits, les péchés. Alors, ce que vous devez comprendre, c'est que le Seigneur n'a pas seulement porté les péchés, que vous pouvez nommer par des noms, vos péchés, mais il a aussi porté le péché. De sorte que nous sommes délivrés non pas seulement des péchés, mais aussi du péché. Le péché ne règnera plus sur vous, parce que vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Et quand on aime, eh bien, tout est possible. Et c'est ça que nous allons voir. Mais c'est pourquoi je dis ici, c'est à quelqu'un que vous devez être attaché. C'est quelqu'un qui doit vous satisfaire pleinement. Alors, Jésus a le Fils éternel, qui était de condition divine. Là, vous pourriez lire Philippiens, chapitre 2. Étant de condition divine, il n'a pas regardé comme une proie à ravir d'être égal avec Dieu, mais il s'est anéanti lui-même, prenant la forme d'un homme, étant trouvé ici-bas en figure comme un homme, et il est devenu obéissant jusqu'à la mort, et à la mort de
la croix.
C'est pourquoi Dieu l'a haut élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus se soit tout genou des célestes, terrestres et infernaux. Alors, cette chose extraordinaire, c'est que le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres du diable et redonner l'humanité à son Père. Cette humanité dévoyée, morte dans ses fautes et dans ses péchés, cette humanité ayant pour Père le diable. Et vous comprenez pourquoi Jésus disait aux Juifs, vous vous dites que vous êtes libres, mais celui qui est esclave du péché n'est pas un homme libre. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. L'homme se croit libre, mais au fond, il est un esclave. Si le Fils vous apprend. Alors, Jésus est né. C'est son incarnation. Le mystère de la piété. Dieu manifesté en chair. Il accepte de prendre notre chair. Une chair humaine, mais qui est son péché. Vous voyez qu'il n'est pas, c'est pas noir, c'est une chair sans péché. Il est né de la Vierge Marie et il est conçu du Saint-Esprit. Conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie. Mais l'étoile ici vous représente sa divinité. Il est Dieu, mais en même temps, il est homme. C'est donc les deux natures du dernier Adam. Le Dieu-homme. L'étoile jaune, il est sans péché, il est Dieu lui-même, mais en même temps, il est homme. Et il naît donc comme un enfant, il a pris notre humanité à la crèche, au berceau, et il n'allait la quitter qu'à la croix. Il a vécu dans son existence de 33 ans toutes les phases de la vie humaine. La condition humaine, le Fils de Dieu l'a revêtue. C'est Dieu lui-même, puisqu'il n'a pas été connu comme créateur, il sera connu comme rédempteur. Et c'est lui qui vient racheter l'humanité perdue. Il est dit « Dieu était en Christ ». C'est sa divinité. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, n'imputant pas aux hommes leurs fautes. Voilà, quand on nous dit, mais enfin Dieu, pourquoi est-ce qu'il a permis le péché? Mais il ne vous condamnera pas parce que vous êtes né pécheur. Vous l'avez compris, ça? Personne ne sera condamné parce qu'il est né pécheur. Personne ne sera condamné à cause de la quantité de ses péchés. Vous êtes condamné parce que, étant pécheur et sachant, c'est un fait que vous êtes pécheur. C'est un fait ou un sentiment? C'est un fait. Et vous seriez condamné si, sachant que vous êtes pécheur, vous refusez la grâce que Dieu vous offre. En qui? En Jésus-Christ. Dieu a pris sur lui la responsabilité du péché. C'est ce que j'ai essayé de montrer dans cette petite brochure. Dieu est-il responsable du péché? Eh bien oui, il dit, j'ai pris la responsabilité du péché et je ne vous condamne pas parce que vous êtes les pécheurs. J'ai fait une œuvre qui vous rachète et qui vous sauve. Pour être perdu, qu'est-ce qu'il vous faut? Refuser la grâce qui vous est offerte. Eh bien, si vous ne voulez pas de la grâce, c'est la condamnation. Mais le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Alors nous devions tous mourir. Mais si nous étions encore en vie, eh bien, nous marchions, comme le dit le chapitre 2 des Éphésiens. Et vous, lorsque vous étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés, dans lesquels vous avez marché autrefois, selon le prince de ce monde, selon le chef de l'autorité de l'air, de l'esprit qui opère maintenant dans les fils de la désobéissance, parmi lesquels nous aussi, nous avons tous conversé autrefois dans les convoitises de notre chair. Parce que justement, c'est dans la chair que se trouvent les convoitises, que ce soit dans l'âme ou dans le corps, accomplissant les volontés de la chair et des pensées. Mais ces volontés, ils sont conduites par Satan. Satan qui nous pousse au mal. Vous accomplissez les volontés de la chair et des pensées. Nous étions par nature des enfants de colère comme aussi les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts dans nos fautes, nous a vivifiés ensemble avec le Christ. Alors, Jésus, dans la vie que vous avez dans les évangiles, est venu nous montrer ce qu'était un homme, ce que l'homme pouvait être dans la dépendance de Dieu. Il a donné un exemple. Il a rendu la loi parfaite. Il a rendu la loi grande et honorable. Et il pouvait dire à ses accusateurs, « Qui d'entre vous me convaincra de péché ?» Et qu'est-ce qu'on répondait? Des silences. Parce qu'il était saint. Il a pleinement glorifié Dieu là où nous l'avions déshonoré. Il a glorifié Dieu au milieu de ce peuple qui se glorifiait d'avoir la loi et qui la transgressait. Et pourtant, ce peuple, quand Jésus est venu chez les siens, il a dit que les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu. Et alors, qu'est-ce qui est arrivé? On a voulu se débarrasser de Christ. Et alors, qui sont les auteurs du crucifiement de Christ? Je dois souvent aller en Israël, je dois parler aux Juifs, qu'est-ce que je leur dis? Vous avez crucifié le Messie? Non. C'est pas eux qui l'ont crucifié, c'est nous autres. Nous les païens, les Romains étaient là, Romains et Juifs étaient en cette terre de Palestine, et puis les Juifs, après que Jésus ait vécu 33 ans au milieu d'eux, ont livré Jésus aux Romains, et les Romains qui auraient dû défendre Jésus, la justice, le droit, qu'est-ce qu'ils ont fait? ils l'ont crucifié. Alors, il y a eu ce complot terrible, les quatre péchés qui ont conduit le Christ à la croix, c'est tous nos péchés, mais on peut dire, et il y a eu d'abord, et c'est ça qu'il nous faut nous garder de cela, il y a eu les faux témoignages. Les faux témoignages, si vous faites un faux témoignage, c'est un péché qui mène le Christ à la croix. On fit venir de faux témoins. Et puis un deuxième péché, il l'avait livré par envie. Est-ce qu'il y a de l'envie parmi vous? La jalousie. La jalousie des prêtres, on l'avait livré par envie. Un des péchés qui a conduit le Christ à la croix, c'est l'envie. Alors, si vous avez de l'envie, si vous êtes envieux, si vous êtes jaloux, jugez cela, ce n'est pas la vie du Seigneur. La jalousie a conduit le Christ à la croix, comme aussi à travers toute la vie, vous voyez que la jalousie conduit au crime. L'envie, la jalousie, les faux témoignages, et puis quoi encore? L'amour de quoi? Judas, l'amour de l'argent, voilà une troisième cause, l'amour de l'argent, que me donnerez-vous pour livrer? Il ne s'est jamais jugé, il aimait l'argent, qu'est-ce que vous aimez? Quelle est l'idole qui est dans votre cœur? Ça me fait mal au ventre quand je pense qu'il y a des gens qui pensent que les idoles, c'est des statues, les statues, ça peut être de l'art, ça, je m'en balance, c'est pas ça qui m'intéresse, des statues. C'est pas ça une idole. L'idole, c'est ce que j'ai dans mon cœur. Bien sûr, si je vois une statue, je ne vais pas me prosterner devant elle. Je serais bête. Ça ne respire pas. Ça a une bouche, ça ne parle pas. Ça a des yeux, ça ne regarde pas. Ça a des oreilles, ça n'entend pas. Ça a des mains, ça ne touche pas. Ça a des pieds, ça ne bouge pas. On doit porter ça. Trouvez-vous pas misère en toi. Vraiment tout mieux. Alors, faisons attention à cela. Non, c'est les idoles qu'on a dans son cœur. Qu'est-ce qui occupe la première place dans mon cœur? C'est de cela que je dois me juger. Qu'est-ce qui me domine? Alors, on va plus loin. Et on laisse le Seigneur nous convaincre. Les Juifs ont crucifié Jésus, c'est-à-dire l'ont livré. Puis le dernier des péchés, là, le quatrième, la crainte des hommes. Pilate, sa conscience parle, mais vous voyez que la conscience, c'est pas Dieu. Sa conscience a parlé. Qu'est-ce qu'il lui a dit, sa conscience? C'est un innocent. Tu dois le libérer. Mais quand il a entendu, si tu le libères, tu n'es pas un ami de César. C'est sa réputation, c'est son poste qui est en jeu. Et il a peur, la crainte des hommes. Si vous n'avez pas cette force, cette crainte de Dieu, vous êtes dominé par la crainte des hommes et vous êtes coupable aussi de la mort de Jésus. Pilate le libre pour qu'il soit crucifié. Alors, il est crucifié. Et qu'est-ce qui se passe là? On arrive vraiment à cela. Jésus sur la croix. Il a donné sa vie. Il disait, à cause de ceci, le Père m'aime. C'est que moi, je donne ma vie pour mes brebis. Et il était venu pour porter les péchés de plusieurs. Il était prédestiné dès la fondation du monde pour que son sang, qui allait supprimer le sang des agneaux, des taureaux et des boucs, c'était son propre sang qui allait nous racheter. Le sang, c'est la vie. Alors, qu'est-ce que Jésus allait donner? Quand on dit qu'il a donné son sang, comme je l'ai dit souvent, le sang de Jésus, c'est pas de l'eau de Javel. Son sang, c'était sa vie. Eh bien, cette vie parfaite qu'il avait eue et qui avait été un exemple pour le monde, cette vie parfaite qui reçoit la consécration sur la montagne de la Transfiguration, que ce soit le mont Tabor ou que ce soit l'Hermon, peu importe, sur une montagne, peu de temps avant qu'il soit crucifié, Jésus a reçu la consécration de son Père. Devant trois disciples, Pierre, Jacques et Jean, ils ont entendu la voix du Père qui sortait de la nuée, qui disait, « Celui-ci est mon Fils élu, écoutez-le, écoutez-le. » Alors, Jésus, au lieu de retourner dans la gloire, parce qu'il n'avait pas à mourir, au lieu de retourner dans la gloire d'où il était venu, avec Moïse et Élie dans la gloire, il redescend de la montagne pour donner cette vie. Parce que sans ça, il n'y aurait eu qu'une vie de Jésus. Et il fallait que le grain de blé tombe en terre neuve pour qu'il y ait d'autres vies qui germent de sa vie. De sorte que les vies qui germent de la vie de Jésus, bien, elles germent de sa mort. Il devait donner sa vie en un sacrifice pour le péché. Nous sommes lavés de nos péchés par le sang précieux du Seigneur Jésus, cet agneau préconnu dès avant la fondation du monde. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Les péchés qui étaient sur nous ici, Jésus les a pris et les a mis sur lui. Mais est-ce qu'ils étaient en lui?
Non.
Il n'y avait pas de péché en lui. Il est toujours le Saint et le Juste. Il n'y a pas de péché en lui, mais il est couvert de nos péchés. Alors là, il faudrait que vous passiez un peu à Gethsémané pour que vous réalisiez et que vous appreniez à aimer le Seigneur. Et il y a 2 ans, oui, je me suis retrouvé au Montmartre canadien, puis il y avait alors un prêtre qui était venu en Israël avec nous, et puis qui disait, il a rendu ce témoignage devant tous ces d'autres personnes, combien il avait été bouleversé, brisé à Gethsémané quand Dieu m'avait donné de faire une prédication dans le jardin de Gethsémané. Et vous ne pouvez pas être à Gethsémané et ne pas pleurer, parce que c'est quelque chose. Quand Jésus dit à son Père, Père, s'il était possible que cette coupe passe loin de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Qu'est-ce qu'il allait faire? Lui qui était seul, qui n'avait jamais eu de péché, ni en pensée, ni en pas. Alors qu'il vivait pourtant non pas comme Adam, dans un jardin de délices et de charme, mais lui, il a été tenté aussi, Jésus, mais où? Dans le désert. Et qu'est-ce qu'il entourait? Des bêtes sauvages. Il a eu les 3 tentations, convoitise la chair, convoitise des yeux et orgueil de la vie, comme Adam aussi. Eh bien, mais lui, il était dans un monde soumis aux conséquences du péché. Il était dans une chair qui était sans péché, mais soumise aux conséquences du péché. Il connaissait la fatigue, il connaissait la faim, il connaissait la soif. Il a eu toutes les conséquences du péché à supporter. Et c'est dans un monde comme ça, dans ces conditions humaines, pécheresse, que Jésus n'a pas péché. Et puis tout à coup, à Gethsémané, s'il voulait vraiment réussir l'œuvre pour son Père, il devait accepter de prendre tous les péchés du monde. Et vous savez, hein, vous les connaissez, les péchés du monde? Il y a des listes dans l'Écriture. Mais quand on regarde dans son cœur, toutes les turpitudes, quand on a un peu l'habitude de la confession, puis que les gens viennent un peu nous dire tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont pu penser, etc., c'est quelque chose d'effrayant. Et beaucoup nous disent, mais moi, le Seigneur ne peut pas me pardonner, j'en ai trop fait. Et il faut pouvoir lui dire, oui, il peut te pardonner, parce qu'il a tout pris sur lui. Jésus, et c'est ça, il nous a tellement aimé qu'il a pris tous les péchés du monde. Oui, aussi, l'homosexualité, tout ce que vous voulez, il y a salut pour les homosexuels, il y a salut pour les lesbiennes, il y a salut pour tous les êtres. Parce que le Seigneur a tout porté, il a tout expié. Il nous a aimés quand nous étions des impies. Dieu constate l'amour qu'il a eu pour nous quand nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Il a tout porté. Mais pour lui, son âme était si sainte que de penser qu'il allait être identifié au péché. Parce que je voudrais bien que vous compreniez le sens des mots. Celui qui était sans péché, il a été fait péché pour nous, comme s'il était le péché même. Et c'est pourquoi Dieu a détourné son visage de lui sur la croix. Quand Jésus a accepté la volonté de Dieu d'aller jusqu'à la mort et d'être traité comme le péché même, ce qu'il a connu vraiment, c'est la damnation. Il a connu cette séparation. Parce que la mort, qu'est-ce que c'est? La mort, littéralement, c'est la séparation de l'environnement. C'est ça que nous devons bien comprendre. La mort, c'est pas le néant, mais c'est la séparation de l'environnement.
la mort nous sépare de tous ceux qui nous entouraient. Eh bien, Jésus a été séparé, lui, de Dieu, qu'il avait toujours glorifié, qu'il avait toujours honoré. Et c'est là qu'il s'écrit, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais vous pouvez donner la raison du pourquoi, vous. Oui, alors c'est à cause de moi, c'est à cause de vous, c'est à cause de moi que Jésus a été abandonné. Et il a tout supporté. Il a tout supporté. Alors ça, c'est la méditation de la croix que nous devrions avoir ici. Il est mort sur cette croix de Golgotha. Les péchés qui étaient sur nous, il les a pris sur lui à la croix. Et il faudrait lire le chapitre 53 d'Ésaïe. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et il a été enseveli. Et alors, est-ce qu'il est resté dans la mort, dans le tombeau? Non. Le troisième jour, selon les Écritures, il est ressuscité. Et alors, voilà le Christ ressuscité dans ce schéma, n'est-ce pas? Le changement que vous voyez, il a un corps et une âme glorifiés. Ce n'est plus le corps qui est soumis aux lois de la matière. Il peut entrer dans une chambre qui est fermée sans ouvrir les portes. Il se trouve au milieu de nous. C'est le corps que nous aurons, nous aussi, notre corps de gloire. Jésus est vivant à jamais. Il est ressuscité. Nous croyons à sa résurrection. Ce sont des faits. La mort de Jésus est un fait. Il a pris un corps de chair pour pouvoir mourir. Et c'est ce soir que nous allons voir ça, dans cette mort, que nous sommes aussi libérés dans la mort de Christ. Et ressuscité, il a envoyé, 10 jours après son ascension, selon la promesse du Père, son esprit pour baptiser les croyants qui reçoivent la puissance d'en haut. Et c'est très intéressant de relire les évangiles et de voir la faiblesse des disciples avant la Pentecôte. Et ce qui leur arrive après la Pentecôte, ce sont des autres hommes. Avant la Pentecôte, ils se disputent, ils se jalousent. Une fois qu'ils sont remplis de l'Esprit, eh bien, tout cela est jugé. Et c'est par l'Esprit qu'ils vont marcher, que ce soit Pierre qui avait renié le Seigneur. Alors, qu'est-ce qui arrive, je vous ai déjà montré, quand nous croyons au Seigneur Jésus, quand nous acceptons le Seigneur Jésus, cette vie que Jésus a auprès du Père, Dieu de Génésie, Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Donc le Seigneur, nous savons où il est maintenant, il est retourné dans le sein de son Père. Hein. L'œuvre étant achevée, l'œuvre étant complète, mais Jésus n'a pas voulu nous donner seulement un exemple de vie, parce qu'il serait resté un Christ extérieur à nous. Il a voulu réellement nous donner sa vie, de sorte que la vie chrétienne, c'est sa vie à lui dans notre chair mortelle. Hein, dans notre chair mortelle. Alors, il régénère d'abord notre esprit. On aura ces versets, je vous les ferai lire. Il régénère notre esprit. Et ce contact avec Dieu étant rétabli, c'est l'esprit qui redevient le maître de la maison. La lampe, de nouveau, est allumée. Si ton œil est simple, si tu crois au Seigneur Jésus, vraiment, hein, mais tu l'acceptes, ton corps tout entier sera dans la lumière. Alors, il y a le commencement. L'esprit, donc, est régénéré, on est renouvelé. Et puis, alors, ce qu'il y a de tragique, et c'est ça le combat où nous arrivons vraiment, l'âme ayant été pendant si longtemps sous la domination du corps, elle hésite un peu. Et c'est ça qu'il y a le combat des deux natures. La vieille nature, hein, qui se manifestait par les sens, surtout, et qui influençait nos âmes, et qui réduisait l'esprit en néant, l'âme a une certaine hésitation. Il faut donc que l'esprit domine
l'âme, l'intelligence, la volonté, les sentiments, les émotions, tout cela doit passer sous la domination de l'esprit, l'âme du Seigneur. J'ai dit que dans l'esprit, c'était le siège du sentiment de Dieu. Dans l'âme, le sentiment de soi. Dans le corps, les sens. Alors, il y a une révolution dans la maison humaine. C'est ça la conversion. C'est un changement. C'est pas un changement de religion, c'est un changement de vie, un changement d'orientation. Ce qu'on appelle la métanoïa, la repentance, c'est un changement de direction, c'est un changement de centre. Avant, j'avais pour centre qui ? Moi. C'est un centre négatif. Maintenant, j'ai pour centre lui, qui est un centre positif. Alors, je vais laisser maintenant le Seigneur agir en moi. Alors, ça, eh bien, c'est le bébé en Christ, c'est la conversion. Mais il faut maintenant que l'esprit, la vie divine, c'est la vie éternelle, une vie qu'on ne peut pas perdre, puisse se développer en nous et prendre toute la place. Il y a toujours la vieille nature, on a toujours la vieille nature, hein. Elle est là, mais nous devons la considérer comme morte. Et c'est l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ se manifester en nous dans sa plénitude et croire que c'est un fait. Nous arrivons vraiment à mort et ressuscité avec Christ. Tous les faits qui se sont produits dans la vie de Jésus doivent se reproduire en nous, comprenez-vous? Mais comme lui est mort, nous aussi nous devons passer par la mort. Mais comme lui est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Et dans le mois d'octobre, si on y arrive, nous verrons que nous ne sommes pas seulement ressuscités avec lui, mais que nous sommes déjà assis en lui, dans les lieux célestes. Notre vie est cachée dans le Christ, en Dieu, et ce qui peut nous donner la victoire sur toutes les tentations.
Mais vous voyez, je vous aide encore un instant avec ça. Les deux sphères. Et pour passer de la sphère où nous entrons par la naissance physique, nous naissons tous là, quels que soient nos parents et la foi de nos parents, l'enfant qui naît même de parents chrétiens doit passer aussi par la nouvelle naissance. La foi n'est pas héréditaire, c'est une foi personnelle, nous allons en parler. Alors, pour passer de la sphère de ténèbres et de mort dans le royaume du Fils de son amour, dans la sphère de la vie éternelle en Jésus-Christ, il y a un abîme. Et quel pont pouvez-vous mettre pour passer cet abîme? Vos œuvres, mettez toutes les œuvres, aucune de vos œuvres ne peut vous sauver. Il n'y a qu'un pont qui s'est dressé entre cet abîme, c'est la croix. Et il faut passer par la croix. Est-ce que vous avez passé par la croix? Est-ce que vous connaissez la croix? Ou bien est-ce que la croix c'est simplement un mot pour vous? Ou bien justement un crucifix comme ça? Est-ce que c'est une réalité pour vous la croix? Et la croix dans votre vie, la porter tous les jours? Et être crucifié réellement, un fait? Et non pas un sentiment. La croix, on aura l'occasion d'en parler aujourd'hui encore et demain. Nous allons nous arrêter ici. Le dîner est dans 10 minutes à, non pas 5h30, mais 5h20. Nous sommes un peu avant les curfews. Et ce soir, nous vous donnons rendez-vous ici à 7h30. On aura un moment de détente, de musique, de chant. Et puis après, nous verrons comment le Seigneur nous conduira. Dieu notre Père, nous voulons te remettre cette heure où nous avons cherché à souligner les points principaux de cette œuvre de la rédemption. Nous voulons te demander que ce ne soit pas des théories pour nous, mais qu'à chacune de ces étapes, nous puissions rencontrer cette personne. et nous rendre compte ce que c'était pour Jésus de porter nos péchés. Mais mieux encore que tu nous amènes à comprendre qu'il n'a pas seulement porté nos péchés, mais qu'il nous a...